Alors moi j'invite les en-chemins et les papillons à venir devant, ici devant si vous pouvez. Là il y a plein de rangées pour que vous ne soyez pas disséminés parce que vous avez aujourd'hui l'honneur, c'est un honneur d'être avec les grands. Bon, si vous vous tournez, là vous voyez, verrez rien. Je vous invite à vous asseoir de manière à voir ce qui se passe. Parce que les papillons et les en-chemins savent lire, donc on peut les garder. C'est une introduction comme nous le faisons avec les pré-ados qui, une fois sur deux, sont dans la salle de culte pour s'habituer petit à petit aussi à vivre ce que les adultes vivent. Après, les enfants, je vous invite, si vous ne comprenez pas tout, Sylvain, si vous ne comprenez pas tout, d'aller poser les questions à vos parents, parce qu'eux, ils auront tout compris. Hein, ça, c'est déjà pas mal. Hein. En plus, il y a deux éléments importants qui font que les papillons et les en-chemins restent, c'est que tout ce qu'ils nous ont apporté dimanche passé pendant la fête de Noël va être redit aujourd'hui. Donc, ils ont travaillé pendant des semaines et des semaines et des semaines sur le même sujet. Ça veut dire qu'ils ne tombent pas des nues. Donc, ils vont voir comment eux ont traité ça, ils le savent maintenant. Et petit à petit, ils vont voir comment nous le traitons. Et je trouve que c'est une bonne introduction. Et en même temps, ça permet aux moniteurs et monitrices qui ont travaillé pendant des semaines et des semaines de se reposer un petit peu. Voilà. Alors, comme l'a dit Mathias, nous sommes dans ces temps de l'Avent qui commencent le 1er décembre pour se terminer le 24 décembre. Et pour les enfants, c'est un très long calvaire parce qu'ils attendent Noël avec une impatience incroyable. Ben, les enfants, il n'y a plus que 2 jours. Vous vous rendez compte? Pour Noël, 2 jours. C'est court, hein? Ça va être vite, hein? Surtout que les vacances ont commencé. En plus, vous avez déjà mis les cadeaux pour vos parents ou pas? Ah, c'est bien. Ah, eux, pas encore. Ah. Mais l'important, c'est que vous leur donniez des cadeaux. Alors, on va faire un peu d'histoire. Comme vous, les enfants, vous nous avez fait un peu d'histoire. La semaine passée, on va recommencer à faire un peu d'histoire. Nous allons parler du calendrier de l'Avent. Vous l'avez à la maison, le calendrier de l'Avent? Oui. Vous avez vu qu'il restait que 2 portes à ouvrir? Ah, bon. Il est comment, votre calendrier? J'ai entendu des papiers de rouleaux de toilette, après on va les jeter. C'est ça? Non? C'est quoi? Ah! D'accord. Ah, vous avez utilisé les rouleaux des papiers de toilette pour mettre les cadeaux bien emballés dans les rouleaux et chaque rouleau est un jour, c'est juste? Ah, mais ça, c'est une excellente idée. C'est vraiment une excellente idée. Eh bien, vous saviez que le calendrier, il vient d'une tradition qui est née en Allemagne au 19e siècle. Et c'était un papa qui se disait « Mais comment est-ce que je vais faire pour que mes enfants ne me triturent pas tous les jours la tête à cause de Noël ?» Alors il a découpé des images de la Bible et chaque matin, pendant les 24 jours de l'Avent, il leur donnait une image de la Bible. C'est pas mal aussi comme idée, non? Oui, c'est moins bien que les cadeaux, je suis d'accord, mais enfin quand même. Et pendant longtemps, c'est comme ça que le calendrier de l'Avent s'est fait. Après, ils ont rajouté une phrase. Ça, vous allez moins aimer. Est-ce que pendant 24 jours, tu pourrais faire une bonne action? Laver la vaisselle, ranger ta chambre. Pendant 24 jours. C'est pas mal, ça serait le calendrier de l'Avent des parents. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les parents? Voilà une bonne idée à utiliser l'année prochaine, hein, dans les rouleaux de papier de toilette. Malheureusement, le fondement du calendrier de l'Avent a disparu. Ça a disparu avec les bonbons, avec les chocolats. Et maintenant, rares sont les calendriers de l'Avent où on a une image de la crèche, où on a une image de Noël. On a essentiellement de la publicité. Je ne sais pas si vous avez réalisé la chose. Je ne vais pas donner les noms de tous ceux qui font des calendriers de l'Avent, mais ça m'a fortement marqué. Le fond du calendrier de l'Avent a disparu. Et c'est dommage, parce que ça ne nous prépare pas à la fêter la venue de celui qui, d'abord en tant que bébé, deviendra un adulte à la croix, notre sauveur à tous. Maintenant, une autre coutume, c'est la couronne. Et vous venez de l'allumer, la couronne. Oh tiens, je crois qu'il y a une bougie qui s'est éteinte. Non ? Elle est allumée ? Ah bon, moi je vois pas de ce côté, je vois plus la lumière. Alors il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interprétations. Il y a beaucoup de phrases qui ont été données par rapport à cette couronne. Le premier jour c'est la paix, il y a la tristesse, après il y a la joie. Mais cette habitude est venue bien, bien, bien avant que les chrétiens soient là. Et c'est devenu après un symbole pour les chrétiens. Parce que dans les familles, on avait froid, on n'avait pas le chauffage comme on a aujourd'hui, alors on avait des petites cheminées, et puis le soir venu, ça nous faisait du bien de voir la chaleur d'une bougie. Et c'est comme ça qu'est devenue l'habitude au XVIe siècle, en Allemagne, pour fêter Noël aussi avec la couronne. Les chrétiens de l'époque avaient une autre signification de la couronne que nous l'avons maintenant. En fait, elle racontait toutes les étapes de la Bible avant la venue du Messie. Et je trouve que c'est vachement impressionnant. Je dis, excusez-moi pour le vachement, mais j'essaie de parler un petit peu, voilà. Moi, ça m'a interpellée. La première bougie était le symbole du pardon accordé à Adam et Ève. Alors, si vous ne vous rappelez pas que Dieu a pardonné à Adam et Ève leur faute, même si le péché est resté, relisez la Genèse. La deuxième est le symbole de la foi d'Abraham et des patriarches qui croient en la terre promise. Là aussi, repartez dans votre Bible, vous trouverez les passages. La troisième est le symbole de la joie de David, dont la lignée ne s'arrêtera pas. Et il le dit plusieurs fois, David. Il sait que sa lignée ne s'arrêtera jamais. Et elle témoigne de l'alliance que nous avons avec Dieu. Et la quatrième bougie est le symbole de l'enseignement des prophètes à travers tout l'Ancien Testament qui annonce un règne de justice et de paix. Donc, quand les chrétiens de l'époque en Allemagne allumaient ces bougies, finalement, ils reprenaient tout l'Ancien Testament et ils annonçaient la venue de Jésus. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir regarder toute la portée que nos ancêtres avaient, tout ce fond qui petit à petit disparaît. Mais c'est quand même beau de voir ces coutumes et je trouve important de les rappeler parce que de nos jours, tout est totalement dilué. Je vous donne un exemple que j'ai vécu ce lundi. Je me suis proposée avec d'autres dames d'aller lire des contes de Noël à l'école. C'est donc l'école qui nous a aussi demandé si on était d'accord. Les livres que j'avais n'étaient pas en accord avec la laïcité. Donc je me suis dit, je trouverais à l'école un livre que je pourrais lire. Et j'ai trouvé un livre qui parle de Dieu, qui parle d'une étoile et qui parle de Bethléem. J'ai dit, ouf! Ça complète aussi ma foi, parce qu'il fallait lire un conte de Noël, mais en même temps, je ne voulais pas lire quelque chose à l'encontre de ma propre foi. Eh bien, sachez que Jésus ne connaît pas. J'avais trois classes. Jésus ne connaît pas. Et quand j'ai parlé de Dieu, parce que c'est Dieu qui accompagne un ange pour nettoyer l'étoile qui va briller au-dessus de Bethléem, ah ben Dieu n'existe pas, madame. J'ai juste eu une petite fille qui a levé le doigt. « Ouais, mais Dieu, on peut le trouver à l'église. » C'est juste pour vous dire l'état de nos écoles. C'est impressionnant. Ça m'a vraiment parlé. Bref, si on quitte les bougies et le calendrier, je vais reprendre ce que Mathias a dit, mais ce que nous a aussi dit Vincent lors de la fête de Noël dimanche passé. Effectivement, le mot « avant » ne veut pas dire « avant Noël ». Il vient du latin « adventus » qui signifie « venu, arrivé ». Et on l'employait autrefois en latin pour dire « voilà la venue de Christ parmi les hommes ». Voilà ce que signifie le mot « avant ». Et pour nous, chrétiens, ce mot devrait désigner préparation à la venue du Christ. L'Avent se terminera donc le 24 décembre, mais nous sommes tous appelés à fêter et à découvrir ce que Jésus a apporté en venant. Est-ce qu'il change votre vie ? J'invite aussi les enfants à réfléchir là-dessus. Est-ce que Jésus a changé votre vie? Ou est-ce qu'il fait partie de votre quotidien puis vous ne réalisez pas ce que ça veut dire? Est-ce que vous faites une place à Jésus dans votre vie? Oui, quand même. Cette venue, elle est annoncée d'une manière merveilleuse dans l'évangile de Jean. Alors, les enfants, je vous rappelle que vous savez lire. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La parole, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui, par la parole, a créé le monde. Et Jésus, c'est la lumière. On continue toujours avec Jean, quelques passages plus loin. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant de là dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Ce que nous voyons maintenant, puisque les enfants ne savent plus même que Jésus existe. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, donc à tous ceux parmi vous qui avez accepté cette parole qui est Jésus, ça nous a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Parce que nous ne sommes pas, alors là je paraphrase le passage, nous ne sommes pas nés par un élément de la nature, ni par une volonté humaine, ni même par la volonté d'un mari, dit la parole, mais nous sommes nés de Dieu. Tous ici, nous avons voulu et été désirés et voulus par Dieu, avec nos défauts, avec nos qualités, selon qu'on est rondelet ou mincelet, ça n'a pas d'importance. Nous avons été imaginés, voulus et désirés par Dieu. Et j'aime beaucoup la façon dont Jean parle de cette venue de Jésus chez nous, en nous, sur terre. Et comme nous sommes à la fin de ce temps d'attente, parce que je pense que les adultes attendent aussi ces deux jours avec impatience, parce qu'eux aussi, ils ont vu les cadeaux au bas du sapin, à défaut des enfants, on va faire une petite réflexion en trois temps. Et les trois temps, les voilà. On va refaire un peu la mémoire du passé. Le deuxième temps, on va raviver notre foi dans le présent. Et notre troisième temps sera de faire grandir notre espérance pour l'avenir. Refaire mémoire du passé. Tout l'Ancien Testament nous prépare à la venue du Christ. C'est un long temps de gestation qui a duré de nombreux siècles. Mais heureusement, Dieu, par ses prophètes, régulièrement rappelait ses promesses. Il rappelait son projet, comme nous l'avons entendu d'ailleurs le 1er décembre par le pasteur Thierry. Avant, c'est donc ce temps d'attente, et c'est pourquoi on peut le considérer comme un temps de gestation. Un temps de gestation qui va durer des nombreux siècles. Parce que, rappelons-nous, le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps à nous. Hein. Quand Dieu dit demain, on ne sait pas quand sera ce demain. Nous, on sait pour nous, mais pas pour lui. Et puis tout s'accélère brusquement, et ça aussi le pasteur Thierry nous l'a dit. Il y a un ange qui arrive, et il annonce à un monsieur, un vieux monsieur d'ailleurs, qui s'appelle Zacharie, la venue d'un enfant. Et il dit, voilà, cet enfant va préparer la venue du Messie. Et nous voyons ensuite Marie et Élisabeth, la femme à Zacharie, qui se rencontrent. Elles sont cousines. Marie, elle attend qui, à votre avis? Voilà. Et Élisabeth, vous savez qui est-ce qu'elle attend? Jean. Je n'ai pas entendu beaucoup d'adultes, mais j'ai entendu les enfants. Hein? C'est super. Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là, quand les deux mamans sont arrivées avec les bébés dans leur ventre? Eh bien, les ventres ont frémi. Les ventres ont bougé. Les bébés dans le ventre ont bougé. Vous savez pourquoi? Parce que Jean, dans le ventre d'Élisabeth, il a reconnu Jésus dans le ventre de Marie. C'est extraordinaire. Hein? Moi, ça m'a toujours beaucoup interpellée, ce passage. Donc, quand on parle de gestation, parce que Marie et Élisabeth étaient en gestation pour et Jésus et Jean, on parle d'un enfant dans le ventre. Comment ça se passe? Alors, je vais vous décrire un peu comment ça se passe pour une femme, mais j'aimerais que vous, les adultes, vous remettiez ça un peu sur l'Église. La plupart du temps, la maman, quand elle apprend qu'elle attend un enfant, elle est contente, elle est émerveillée, elle commence à voir son corps qui change, elle est beaucoup plus sensible, elle pleure pour un rien, elle s'énerve pour des bêtises. Et puis ensuite, c'est le moment extraordinaire où elle sent bouger l'enfant en elle. Et puis c'est toujours plus fort, l'enfant prend toujours plus de place et il y a une relation qui s'installe entre la maman et le futur bébé. Et pendant que la grossesse d'une maman avance, que ce temps de gestation arrive petit à petit à son terme, elle commence à se poser des questions. Est-ce que je suis prête à recevoir cet enfant? Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je serai une bonne maman? Et puis je n'oublie pas les futurs papas. Il ne faut quand même pas vous oublier. Hein. Parce qu'eux, ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Et puis, ils se sentent parfois un peu exclus de ce qui arrive, de ce processus. Et ils peuvent avoir peur. Peur qu'il puisse y avoir des problèmes. Problèmes par rapport à la santé de leur femme. Et ils ont peur de ne pas être à la hauteur de leur rôle de père. Tout ça, c'est un temps de gestation. Autant pour l'homme que pour la femme. Et puis arrive l'enfantement. Le bébé arrive. Pas toujours sans douleur. Rarement sans douleur. Mais c'est la découverte extraordinaire d'un petit être qui a des oreilles, des yeux, une bouche, 5 petits doigts de pied, 5 petits doigts de mains. Il a tout, il est là, il hurle, mais ce n'est pas grave, c'est même bien. Mais il est entier. Et c'est là le premier face-à-face entre les parents et ce bébé. Eh bien, Jésus, il a vécu tout ça. Il a vécu tout ça avec Marie, sa maman, et Joseph, son papa sur terre. Il a grandi, il a été éduqué par ses parents. Son papa Joseph a fait de lui un charpentier. Et il est aussi dit, écoutez attentivement les enfants, que Jésus respectait ses parents. Intéressant ça, hein? Et puis un jour est arrivé pour Jésus de quitter sa famille. Comme vous, vous grandirez un jour, vous direz au revoir papa, au revoir maman, moi je vais dans un studio, j'ai plus besoin de vous, j'ai un travail, j'ai de l'argent. Ça vous arrivera un jour. Et il faudra que nous les parents on dise au revoir aussi. Hein? Donc Jésus quitte sa famille et va commencer son ministère pendant 3 ans. Ensuite, ça a été la mort à la croix à notre place pour nous sauver de nos péchés. Mais cette mort était prévue depuis le départ, depuis les premiers chapitres de la Genèse. Donc on ne peut pas dire que c'était inattendu. C'était dans le projet de Dieu. Parce que pour lui, c'était l'unique moyen de respecter sa justice par rapport au péché et de nous aimer par-dessous tout en nous donnant son Fils. Mais cette histoire ne s'arrête pas là, les amis. Ce n'est pas à la crèche avec le bébé dans le petit berceau ou dans la mangeoire. Ce bébé, il est monté au ciel pour s'installer à côté de son papa céleste. Et là, nous arrivons au deuxième temps, raviver notre foi dans le présent. Parce que dans ce temps d'avant, on peut voir que, comme la tradition et comme le temps de gestation, il y a une prochaine venue de Jésus. Et dans ce temps de gestation, je vous ai dit, regardez ça aussi comme la figure de l'Église qui attend la réalisation des promesses bibliques. C'est ce qui peut nous inviter à considérer l'Église comme un corps en gestation. Et de nombreux passages dans le Nouveau Testament nous parlent de l'Église comme un corps. Qu'est-ce que l'Église attend vraiment ? Ici, il faut ajouter qu'en parlant de l'Église, je ne parle pas de l'Église comme une institution sociale ou comme un syndicat ou un parti. Je parle de l'Église comme l'ensemble de tous les chrétiens du monde entier. Donc c'est l'Église avec un E majuscule. Parce que Jésus a dit « Je viens chercher mon épouse ». Il ne dit pas « Je viens chercher mes épouses ». Il dit « Je viens chercher mon épouse ». Il n'est pas polygame, donc il vient chercher son Église, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens. Donc dire que l'Église est en gestation, c'est nous obliger aussi à nous, comme un bébé grandit dans le ventre d'une maman, à grandir spirituellement, à devenir mature, à rester éveillé afin d'être prêt. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on doit être prêt ? Messieurs les adultes ou mesdames les adultes, vous pourriez répondre à la place des enfants ? Pour le retour de Christ, exactement. Et j'ai connu bien des personnes qui m'ont dit « c'est pas demain qui va venir, ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Alors j'ai encore le temps de vivre comme j'ai envie de vivre. Hein, je peux frouiller les impôts, je peux avoir une maîtresse à côté de ma femme, etc., etc., etc. Et puis, quand le temps où Jésus va revenir, je demanderai pardon, j'accueillerai Jésus, et comme ça, j'aurai bien vécu. » Ça peut vous choquer, mais moi, j'ai vu pas mal de gens parler comme ça. Alors, je vais vous donner un témoignage que j'ai eu il y a très, très longtemps. À l'époque, les églises de l'ELG se rejoignaient à la salle des fêtes de Carouge. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, Thierry, mais moi, je m'en rappelle. Et il y a eu un évangéliste qui racontait une histoire qui m'a frappée. Donc, c'était il y a presque 20 ans. Vous dire à quel point ça m'a interpellée. Cette histoire, c'est un évangéliste qui travaille dans une usine où on construit des gros tuyaux. Je ne sais pas si vous avez vu, avec tous les trous qu'il y a à Genève, on met des énormes tuyaux dans ces trous. Parce que dans les tuyaux, il y aura l'électricité, il y aura l'eau, il y aura je ne sais pas tout quoi, mais il y aura beaucoup de choses. Donc dans cette usine, cet évangéliste, tous les jours, à un ami avec qui il mangeait à midi, disait « Écoute, il faut que tu reçoives Jésus dans ton cœur. C'est important, parce que si tu ne le reçois pas dans ton cœur, tu n'auras pas l'éternité. » Et tous les jours, cet ami lui disait « Oui, mais j'ai le temps. » Et ça a duré plusieurs années. Et cet évangéliste n'a pas lâché son copain de travail. Chaque jour, il lui rappelait ça. Et un jour, l'ouvrier donc, vient vers l'évangéliste et dit « Écoute, j'en ai marre, tu me rappelles toujours que je dois accueillir Jésus. Promis, demain, je le reçois. » Le jour même, il est mort parce qu'un lot de tuyaux est tombé sur lui. Et il n'avait pas reçu Jésus. Cette histoire m'a marquée. Parce que vous voyez, demain, on ne sait pas si on sera vivant ou mort. Demain, on ne connaît pas demain. Donc c'est aujourd'hui qu'on doit prendre une décision, pas demain. Croire en une église en gestation, c'est croire qu'après l'hiver, les pommiers vont refleurir. C'est croire en la puissance de l'Évangile, croire en ce monde que Dieu aime et pour lequel il a donné son Fils Jésus. C'est croire en une nouvelle donne, croire que nous pouvons bénéficier d'un « new deal » avec Dieu, comme on dit aujourd'hui en français, Et si nous acceptons son Fils comme une grâce qui nous appelle à entrer dans l'œuvre de Dieu préparée d'avance depuis des siècles, l'Avent devrait raviver notre foi dans le présent, car c'est une période durant laquelle nous nous préparons à célébrer la fête de Noël, à célébrer cet événement inouï et décisif lorsque Dieu s'est fait homme parmi les hommes. De sa naissance à sa mort sur la croix, il a partagé en tout la condition d'un homme, à l'exception du péché. C'est avant cette gestation dans nos vies, cette gestation de l'Église devrait nous rappeler de toujours rester vigilants. La parole des prophètes, les évangiles, les épîtres nous rappellent continuellement cette nécessité de la conversion et de la préparation de nos cœurs à recevoir Jésus. Alors on arrive à ce troisième temps de réflexion, comment faire grandir notre espérance pour l'avenir? C'est difficile de vivre un présent lorsqu'on est malade, lorsque tout va mal. C'est difficile d'avoir cette espérance lorsqu'on écoute les nouvelles à la télévision ou dans les journaux, où il y a des volcans qui tuent plein de monde, il y a des guerres, il y a plein de violences partout, il y a des famines diverses, et 80% des personnes persécutées, ne l'oublions pas, sont des chrétiens. Donc c'est difficile. Comment espérer dans ce monde qu'on nous montre? Eh bien, de la même manière que dans tout l'Ancien Testament parle de la venue d'un sauveur, toutes ces prophéties-là ont été réalisées. Ce qui nous donne l'espoir de la réalisation des prochaines prophéties. Et ça, c'est important. De la même manière, la Bible nous parle de cette espérance à avoir dans cette nouvelle venue, et Matthias l'a aussi rappelé, et cet avenir avec le Christ en gloire. Cet avenir qui commence avec la résurrection de Jésus. Avoir la foi en la résurrection de Jésus, c'est avoir la foi en notre propre résurrection. Il ne faut pas seulement l'espérer, il faut y croire. C'est à la mort de Jésus que nous avons déjà eu des croyants qui sont ressuscités. Vous saviez ça, Sylvain et Josué? Ah, ben dis donc. Et vous, les adultes? Alors, pour le plaisir, on va relire le passage. Hein. C'est dans Matthieu 28. Les tombeaux, donc Jésus vient de mourir. Il y a un grand tremblement de terre. Et qu'est-ce qui se passe? Dans le cadre de ce tremblement de terre, les tombeaux s'ouvrent et les corps des plusieurs saints, c'est un mot qui dit les croyants ou les chrétiens, ressuscitèrent. Et étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Alors il y a des sceptiques. Ça, c'est dans la Bible. Est-ce que tout ce que dit la Bible est vrai? Alors, tournez-vous vers Flavius Joseph, qui est un journaliste romain et qui raconte cet événement. Donc, c'est un journaliste de l'époque qui a vu ça. Donc, nous pouvons y croire. Est-ce que vous imaginez, vous enterrez votre tante, Jésus meurt quelques mois plus tard, il ressuscite et vous croisez votre tante à la place de la Sardaigne? Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Mais c'est incroyable d'y penser. Si ces croyants sont ressuscités, nous ressusciterons aussi. Et non seulement nous sommes appelés en tant que chrétiens à ressusciter, mais en même temps, gardons fermement en nous cet espoir que Jésus reviendra. 2000 ans, ok, c'est pas grave. Hein? Dieu a attendu. Dieu avait son temps jusqu'à ce que le Messie est arrivé sur terre. Alors, ne regardons pas le temps comme nous on le regarde avec les heures, avec la montre et tout ça. Croyons que Dieu a un temps parfait. Et voilà comment, entre autres, dans Matthieu 24, 30, pas 31, j'ai oublié de corriger, il est dit « Alors le signe du Fils de l'homme, ça veut dire Jésus, apparaîtra dans le ciel. » Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. J'ai essayé de m'imaginer. Ici aujourd'hui, c'est le matin. De l'autre côté de la terre, c'est la nuit. Mais tout le monde entier en même temps verra Jésus. Ça m'impressionne, moi. C'est un truc qui me parle. Et nous avons aussi dans Romains 8, le verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, en nous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Est-ce que nous avons l'esprit de Dieu en nous? Voilà. Ce temps futur de la venue de Christ, déjà les apôtres l'attendaient. Si vous relisez les épîtres, vous voyez que Paul dit « demain il va arriver ». Non, il est mort avant qu'il arrive. Mais ils avaient cet espoir. Et ce temps futur de Christ est très important. Alors j'arrive à la conclusion. Croyons que Dieu fait toutes choses en son temps. Et comme je l'ai déjà dit, il a fallu de nombreux siècles pour que Jésus arrive. Ne regardons pas les nombreux siècles jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rater le coche et d'être vigilant. Nous avons entre autres passages sur cette vigilance, Matthieu 24, les versets 42 et 44. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Quand je lis ça, je me rappelle toujours cet ouvrier qui disait « demain, demain, demain » et puis « demain, il est mort. » « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » C'est pourquoi vous aussi, et ça s'adresse à tous ici présents, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est pour ça qu'il faut veiller, prier, être prêt. Et se poser la question, est-ce que j'ai reçu Jésus dans mon cœur? Est-ce que je vis avec le Saint-Esprit? Est-ce que je suis assez digne pour être devant Jésus, parce qu'il y aura ce jour de jugement où on sera devant Jésus et où Jésus dévoilera tout de nos vies, et pas seulement l'extérieur mais l'intérieur, parce que les pensées, Dieu les voit. C'est très important. Moi, ça me parle beaucoup. Parfois j'ai des pensées pas très très saintes, dirons-nous, et je me dis, oulala, pardon Seigneur, c'est pas juste, parce que je sais qu'il pardonne, puisque Jésus est mort à la croix. Mais c'est un travail qu'on doit le faire, on doit y penser. Est-ce qu'en d'autres termes, on arrivera à rester vigilant? Est-ce qu'en tant que chrétien, on continuera à servir le Seigneur avec notre cœur, avec notre foi et avec notre amour? Parce que la Bible dit aussi que l'amour, c'est ce qui balaye tout. La vigilance va nous garder dans l'espoir. Dans 2 Corinthiens 4, les versets 16 et 17 dit « Voilà pourquoi ne perdons pas courage. » Vous voyez, déjà à l'époque, il disait « Ne perdons pas courage. » Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Les enfants, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Vous voyez, vos parents, ils vieillissent. Vous aussi, mais vous ne le remarquez pas encore. Donc, ils commencent à avoir mal au dos, ils commencent à avoir des jambes qui enflent, ils commencent à ne plus voir très bien, ils commencent à ne plus très bien entendre. Ça, c'est l'extérieur. Mais il faut que notre intérieur, notre foi en Dieu, se renouvelle chaque jour. Et que nos légères difficultés d'aujourd'hui n'ont aucune importance par rapport à l'espoir de cette vie éternelle en gloire. Et j'insiste parce que c'est de notre avenir qu'on parle, notre avenir à tous. Dieu nous prépare notre avenir depuis la fondation du monde. Il est dit dans Hébreux 11, le verset 16, « En réalité, ils, donc nous, désirons une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc nous avons un avenir dans une cité céleste si nous avons Jésus dans notre cœur, si nous vivons à la suite et avec le Saint-Esprit, parce que le ciel et la terre vont se rejoindre. C'est difficile à croire, mais c'est ce qui va arriver. Parce que si la Bible a annoncé Jésus et que Jésus est venu, tout le reste va se passer. Et si elle est notre livre de référence, on doit y croire. Nous avons Ésaïe, que notre président Matthias a relaté. Est-ce que vous imaginez toutes les prophéties que cet homme a reçues 700 ans avant la venue de Christ? Eh bien, je suis tombée par hasard sur un passage où notre Ésaïe parle de cet instant où la terre et le ciel se rejoignent et qui n'est pas encore arrivé. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce prophète. Il est difficile à lire. Chaque année, je découvre encore plus. Et c'est un homme qui a été père de famille. Il a eu deux fils, il a eu deux femmes. Son deuxième épouse était prophétesse. Donc, on peut se dire, c'est un monsieur comme tout le monde. Hein? Et pourtant, regardez tout ce qu'il a reçu. Alors là, je vais vous le lire. Mais j'ai trouvé une image qui le représente un petit peu. Le loup habitera avec l'agneau. Comme vous le voyez, c'est Ésaïe 11, les versets 6 à 10. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau et le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Alors ça, moi, ça m'a parlé. Est-ce que vous imaginez un petit enfant qui joue sur le nid d'une vipère? Eh bien oui, c'est là où le ciel et la terre se rejoignent. Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute cette montagne sainte. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer est recouverte par les eaux. En ce jour, et là on revient à ce que Matthias a dit, le rejeton d'Isaïe, c'est-à-dire Jésus, sera là comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Alors, moi j'avais envie de vous le montrer comme ça, et ça m'a été confirmé à de nombreuses reprises, c'était ça qu'il fallait apporter pour se parler de Noël. Et j'aimerais vous inviter, lorsque vous serez autour de ce sapin, de se rappeler de ces trois temps. Hier, aujourd'hui, demain. De vous rappeler que nous sommes dans cette période de gestation, en attendant que l'Église nous mène vers un glorieux avenir éternel. Que nous puissions nous rappeler que l'on doit rester réveillé, qu'on ne doit pas s'endormir, que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Et je vous invite à fermer les yeux, un petit moment, peu de temps, et à réfléchir sur ce hier, aujourd'hui, demain. Je vous donne un dernier passage dans 1 Jean 5, le verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.